Que Dieu vous bénisse. Frère François ne saura pas être là, donc il m'a dit de pouvoir prendre le service. On va prier. Père très saint, nous te disons merci, Père Dieu, pour cette grâce nous accorder de nous retrouver autour de ta parole. Ce lieu où tu nous enseignes, ce lieu où tu nous instruis, ce lieu, Père, où tu nous corriges, ce lieu où tu nous bénis. Nous te disons merci, Père éternel, oh Dieu. Comme nous venons de le chanter, c'est notre prière pour ce cantique, Père. Conduis-nous, Père éternel, oh Dieu, et dirige-nous en toutes choses, Père. Nous avons besoin de toi. Pardonne chacun de nous, Père, car qui est juste, Père éternel, oh Dieu. La Bible déclare tous les hommes ont péché, mais c'est seulement au travers de Christ que nous avons été réconciliés avec toi. Et nous te disons merci pour cela, Père éternel. Maintenant, ô Dieu de grâce, ouvre notre esprit pour que nous comprenions les Écritures, Père éternel. Révèle-nous tes voies, car seule ta révélation est claire, Père éternel, ô Dieu. Et sois honneur, louange et gloire, au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen.
Amen.
La dernière fois où je m'étais tenu ici, on parle sur un thème qui est la croix. Et on avait vu que la croix avait deux dimensions, la dimension verticale et la dimension horizontale. La dimension verticale, c'est de Dieu vers l'homme et de l'homme vers Dieu. Et la dimension horizontale, c'est de l'homme vers l'homme. Et au centre, nous avons vu que c'était Jésus-Christ. On doit passer absolument par Jésus-Christ. C'est le seul chemin que Dieu a tracé pour nous. Et on avait vu qu'à la croix était liée la notion d'amour. Donc il y a l'amour de Dieu envers nous et l'amour de l'homme envers Dieu. Il y a l'amour de l'homme envers son semblable. Et on avait parlé un peu des différents types d'amour qu'on pouvait rencontrer. Et donc cette relation est capitale. Et pour l'instant, nous nous focalisons sur la relation entre Dieu et l'homme. Parce que de cette relation découle la relation entre l'homme et son semblable. Et nous avons aussi vu que Dieu est le créateur et qu'il a établi des lois dans sa création. Et ces lois sont valables dans toute sa création. Nous avons parlé de l'ancienne et de la nouvelle création. Dans l'ancienne création, on avait vu qu'il y avait l'eau et l'Esprit de Dieu. Et dans la nouvelle création, comme nous avons vu, lorsque Dieu fait une chose d'une certaine façon la première fois, il le fait exactement de la même façon les fois suivantes. Et dans la nouvelle création, nous avons vu qu'il y avait la parole et l'Esprit de Dieu. Et c'est cette parole-là qui s'est faite chair. Bien. Et nous avons vu que pour cette nouvelle création, il nous faut naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Ceci est capital parce que c'est le point de départ de toute vie chrétienne. Et comme, je crois que c'est dans la Bible qu'il est écrit, la première loi de la vie, c'est avoir la vie. Si on n'a pas la vie, on oublie tout le reste. Parce que c'est celui qui a la vie qui peut exalter Dieu, celui qui a la vie qui peut célébrer Dieu. Donc je disais que nous avons parlé aussi de l'eau et du feu. Et ensuite, nous avons vu le sang, et que l'âme de l'homme se trouve dans son sang. Aujourd'hui, nous allons continuer dans le même sens, parlant justement de l'importance de l'eau et du feu. Et nous avons vu que à l'eau est liée la naissance et le baptême. Au feu, ça veut dire au Saint-Esprit, est aussi lié la naissance et le baptême. Ce sont deux notions, si Dieu nous le permet, qu'on verra dans les prochaines fois, comme Dieu conduira. Bien. Aujourd'hui, je disais donc, nous allons parler toujours de l'eau et du feu, et nous allons voir en fait Élie et les 450 prophètes de Baal. Et pour cela, nous allons lire dans 1 Roi 18, à partir du verset 18 jusqu'à 21. Et après, on lira dans la suite, les 27 jusqu'à 41. Élie répondit, « Je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne de Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » Acab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne de Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. On va prier. Merci Père de nous éclairer, ô Dieu, sur ces passages qu'on vient de lire. Que le Saint-Esprit nous vienne en aide, Père, pour nous aider à comprendre et à saisir ces vérités profondes, Père éternel, ô Dieu. Et nous puissions marcher par ces vérités, Père éternel, ô Dieu. Nous nous attendons à toi. Bénis chacun de nous, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Très étrange. Le peuple ne lui répondit rien. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Parce que c'est un peuple avec une histoire exceptionnelle. Ils ont vu la gloire de Dieu. Dieu les a sortis de la servitude. Ils ont marché au travers du désert. Et ils étaient maintenant dans le pays où Dieu leur avait dit, c'est le pays où coule le lait et le miel. Mais nous remarquons quelque chose d'assez étrange, c'est que le peuple va abandonner Dieu pour s'attacher à d'autres dieux. Difficile à comprendre. Difficile à comprendre. Je suivais une histoire d'une dame et d'un jeune homme qui s'étaient promis en mariage. Ils se sont connus aux études et ont vécu ensemble pendant 10 ans. La dame, pendant ses études et après avoir terminé l'université, a pris en charge ce jeune homme et il a payé ses études, se mettant même à dos toute sa famille. Elle était de 12 ans son aînée et elle s'est sacrifiée pour lui car il voulait assurer leur avenir en tant que mari et femme, en permettant aussi à ce jeune homme de faire des études, surtout que celui-ci était d'une famille assez pauvre. Le jeune homme a su s'en sortir et lors d'une formation dans une école de cadres, il va rencontrer une jeune dame faisant la même formation que lui et ils vont se fiancer, oubliant qu'il était déjà fiancé. Le jeune homme n'avait rien dit ni à sa première fiancée, si je peux dire ça ainsi, ni à sa seconde. Et qu'est-ce qu'il va décider? Il va abandonner celle qu'il a soutenue pendant toute sa vie ou pendant toutes ses études. Et maintenant qu'il avait une certaine situation, ben, il abandonna cette dame-là. Et la première dame ne comprenait pas. Il voulait savoir ce qu'il en était. Et finalement, lors de la confrontation, le jeune homme va dire des paroles assez blessantes à l'égard de celle qui avait pris soin d'elle. Il lui dit qu'il ne l'aimait plus et qu'elle était une vieille casserole. Excusez-moi les termes, mais c'est ce qu'il avait dit. Et qu'il la considérait comme sa mère. La question lui fut posée. Toi, tu peux aller avec ta mère. Il resta bouche bée. Imaginez la douleur de cette dame qui a mis tout ce qu'il pouvait pour s'assurer avec le jeune homme une vie heureuse. Et la dame était en pleine douleur et en plein désarroi. Et elle était tellement en colère jusqu'à aller maudire le jeune homme, lui disant que s'il ne l'épouse pas, jamais il ne sera heureux dans sa vie. C'est toute sa vie qui s'est écroulée. Vous pouvez comprendre la douleur de cette jeune dame, comme je disais. Et c'est vrai, c'est une situation assez grave. Nous pouvons imaginer maintenant combien Dieu devait se sentir. Après avoir pris soin d'un peuple qui s'est racheté, les a sortis de l'Égypte, les a conduits dans le désert, il a pourvu pour tout. Et même, il les conduisit dans ces pays qu'il leur avait promis, les pays où coule le lait et le miel. C'est assez difficile à comprendre. Qu'est-ce qu'exactement Dieu avait fait à ce peuple? Ce peuple ne voulait plus de lui et il va s'attacher à des dieux étrangers qui n'ont rien fait pour lui. Quelle ingratitude et quel mépris! On peut comprendre combien le cœur de Dieu était en peine. Et en cela, Dieu s'est mis en colère. Dieu va les châtier par la famine. Certainement, nous tous nous sommes offusqués par les comportements d'Israël. Mais ne faisons-nous pas la même chose? Combien de fois n'étais-tu pas retrouvé dans une situation de détresse et que Dieu te sort de là? Tu le loues de toutes tes forces, tu peux même témoigner, et puis quelques temps après, te voilà reparti dans tes propres voies, faisant ce que tu veux, oubliant que c'est Dieu qui t'a sorti d'une situation de crise, d'une maladie ou de toute autre situation. L'homme est très bizarre, très très bizarre. Et la punition de Dieu va durer 3 ans. Après 3 ans, Dieu, dans son amour, voulait quand même revenir à ramener son peuple à lui. Et il va y avoir cette confrontation au mont Carmel avec les prophètes de Baal et d'Astarté. Je vais lire au verset 27. C'est un peu long, mais c'est bon de le lire. À midi, Élie se moqua d'eux. C'est mon cas des prophètes de Baal, et dit, criez à haute voix puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose où il est occupé, où il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après les nombres des tribus de fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea les bois, coupa les taureaux par morceaux et les plaça sur les bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur les bois. Il dit, faites-les une seconde fois. Et ils les firent une seconde fois. Il dit, faites-les une troisième fois. Et ils les firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau les fossés. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que
que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans les fossés. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. » Très étrange. Il a fallu que Dieu fasse tout ce qu'il a fait là pour qu'ils reconnaissent que c'est Dieu qui est Dieu, alors qu'il les a sortis de l'Égypte. L'homme est fort oublié. Israël, sous le règne d'Akab et sa femme Jézabel, passait des moments difficiles, comme nous venons de voir. C'était la famine, parce que le peuple avait abandonné Dieu pour s'attacher aux Baal et aux Astartés. La question qu'on peut se poser, qui était Baal, qui était Astarté? Et quelle est l'origine des cultes? Quelle est l'origine des cultes de Baal et Astarté en Israël? Lors de la sortie des enfants d'Israël d'Égypte, l'Éternel parla aux enfants d'Israël en ces termes. On peut lire Lévitique 18, 1 à 5. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, « Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Vous ne ferez point ce qui s'est fait dans les pays d'Égypte où vous avez habité. Et vous ne ferez point ce qui s'est fait dans les pays de Canaan et où je vous mène. Nous voyons ici, donc à Canaan, il y avait des peuples qui y habitaient. Vous ne suivrez point leurs usages. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Vous pouvez lire tout Lévitique 18 pour voir quelles sont les pratiques dont Dieu parle qu'il ne devait pas suivre. Mais après la conquête de Canaan et après la mort de Josué et de toute cette génération, Israël se détourna de l'Éternel pour aller servir les Baal et les Astartés ou Astartés. La nouvelle génération n'obéit pas à Dieu en allant traiter des alliances avec les habitants de Canaan, alors que le commandement de Dieu était de renverser leurs autels et de ne point offrir des sacrifices à leur Dieu. Depuis lors, ces dieux de ses habitants sont devenus un piège pour eux. Et ce piège a suivi Israël au travers de tout le temps qu'il est resté sur ces terres. On peut lire Josué 2, 1 à 3 et 11 et 13. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit, « Je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Et vous, vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ces pays. Vous renverserez leurs autels. Mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela ?» Je dis alors, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés et leurs dieux vous seront un piège. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et ils servirent les Baals. C'est au verset 11. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient, Ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et servirent Baal et les Astartés. On peut remarquer ici, ils abandonnèrent les dieux de leur père. Un jour, nous parlerons de l'importance des pères dans la construction d'une vie, d'une famille, d'une église ou d'une nation. Car les pères sont des repères. Si vous vous souvenez, je crois que c'est dans Malachie où il est parlé de ramener le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères. Parce que les pères sont très, très importants. Alors commencèrent les temps des juges, jonchés par des cycles de châtiments. Lorsque le peuple s'éloignait de Dieu, Dieu le punissait. Et lorsque Dieu le ramenait à lui, alors Dieu le bénissait à nouveau. C'est comme ça que la période des juges a commencé. Mais qui sont ces dieux? L'histoire nous enseigne que Baal était la divinité suprême des Cananéens et des Phéniciens. Il était considéré comme le dieu soleil et aussi le dieu de l'orage ou de la fertilité, car il permettait à la terre de produire d'abondantes récoltes et aux hommes d'avoir des enfants. C'est aussi lui qui leur donnait la victoire sur leurs ennemis. Le culte de Baal était un culte sensuel qui impliquait la prostitution sacrée dans les temples. Parfois, des sacrifices humains étaient nécessaires pour l'apaiser, la victime étant le plus souvent le fils aîné de celui qui offrait les sacrifices. C'est Baal, alors qui était Astarté. Astarté était la déesse principale des Syriens, des Phéniciens et des Cananéens. Elle était considérée comme la déesse de la lune et présentée comme l'épouse de Baal, le dieu soleil. Le nom Astarté dérive de Ishtar, qui était la divinité la plus populaire de l'ancienne Mésopotamie. Et il symbolisait le pouvoir de l'attraction sexuelle et du plaisir charnel qui en résulte. Tourné vers la satisfaction immédiate de ses propres désirs sensuels, elle n'était ni une déesse du mariage, ni une déesse de la maternité. Son appétit sexuel était insatiable et ses relations avec les hommes de courte durée. En raison de sa brutalité et de sa farouche détermination à parvenir à ses fins, quel qu'en soit le prix à payer pour les autres, Ishtar était aussi une déesse de la guerre et une protectrice des dynasties régnantes. C'est comme ça que Israël a, du moins pour les peuples qui étaient sur place, c'est au travers d'eux qu'ils ont connu Astarté et Baal. Et si nous remarquons bien, n'est-ce pas là le temps dans lequel nous vivons, où les gens aiment le plaisir plus que Dieu? C'est un temps de satisfaction immédiate. C'est le temps de l'immédiateté ou de l'instantanéité. On veut une satisfaction immédiate. Et le marketing aujourd'hui joue un grand rôle. Vous trouverez acheter et payer plus tard, satisfait ou remboursé. Les relations entre l'homme ou les hommes et les femmes sont devenues très superficielles. On a perdu la notion de vœux et d'engagement. C'est l'amour libre, comme ils appellent cela. La cohabitation est devenue la norme et le mariage l'exception. Si on n'est pas compatible, on se sépare. Le divorce est facilité et il y a de plus en plus de familles décomposées et recomposées. Toute la société est malade. Il y a de plus en plus de névrosés. Frère Branham en parle. aussi bien les parents que les enfants. C'est un temps terrible. En même temps, nous n'avons jamais connu une période où les armes sont fabriquées en masse et disséminées dans le monde entier, alimentant ainsi les guerres de plus en plus meurtrières. Nous avons vu que Astarté était aussi le dieu de la guerre. La violence est partout. Considérez les drames dans des familles ou dans la société. Meurtre, assassinat, suicide, violence conjugale. Les armes de toutes sortes sont fabriquées, des armes personnelles aux armes de destruction massive, des missiles hypersoniques, etc. Et ils s'en vantent sans vergogne. Vous n'avez qu'à voir Poutine, comment ils se vantent de ça. Les grandes puissances se regardent en chaîne de faïence. Le monde est au bord d'un cataclysme. Eux-mêmes le disent. Ils le disent que le monde est au bord d'un anéantissement. Pour eux, c'est comme un jeu. Le monde aime les armes. Voyez, lors des portes ouvertes dans des casernes militaires, vous verrez combien les hommes sont fascinés et passionnés des armes. Même les enfants. C'est pour montrer la société dans laquelle on vit n'est pas assez différente de ce que Israël ou de ce que les nations qui nous ont précédés ont vécu. Comme il est dit, l'histoire est un perpétuel recommencement. Mais qu'est-ce qui faisait qu'Israël s'est détourné si facilement du Dieu véritable? C'est parce qu'ils aimaient le plaisir. Et ces faux dieux étaient si attractif et si permissif qu'il ne disait rien. Il permettait de faire n'importe quoi, s'habiller n'importe comment, se livrer à la débauche. Mais qu'est-ce qui a fait que Israël puisse être entraîné dans cela? Tout est parti du mariage entre Akab et Jézabel. Et nous voyons que du temps d'Akab, sa femme qui est Jézabel, c'est une princesse phénicienne. Ce n'était pas quelqu'un d'Israël ou une femme d'Israël. Elle était princesse phénicienne ou sidonienne. Et c'est elle qui a introduit ce culte en Israël. On a vu tout à l'heure, lorsqu'on a lu, que tous les prophètes allaient s'asseoir autour à la table de Jézabel. Donc, elle était un peu comme la patronne parce que tous les prophètes, ils étaient 450 plus 400 d'Astarté, donc 850. Et ils allaient s'asseoir à sa table. Elle était un peu comme la reine. Puisque Israël, comme on l'a dit, s'est détourné de Dieu, Dieu va les punir par la famine. Le prophète Élie va prononcer cette sentence. On a aussi vu ça, que le peuple va connaître 3 ans de famine. Et après ces 3 ans, il va y avoir une confrontation entre les prophètes de Baal et l'Éternel, ou Élie. Le peuple était dans une grande confusion, ne sachant plus où ils en étaient, refusant même de choisir entre l'Éternel et Baal. Mais une chose étrange, pourquoi Dieu se souciait-il autant d'Israël? C'était son peuple. Il l'avait racheté et il tenait à ce peuple. Élie va nous montrer ce qu'il faut faire pour revenir à Dieu, comment être exaucé et comment faire descendre le feu de Dieu au milieu de nous. Dans ce récit, il est question du retour d'Israël à Dieu, parce qu'il s'était éloigné de Dieu. Israël était rétrograde. Mais comment alors revenir à lui? C'est ce qu'on va voir. Donc, Élie va prier pour que le feu descende, mais il était nécessaire d'abord qu'il rétablisse l'autel, qu'il y place les sacrifices, qu'il verse l'eau sur l'autel et tout autour, et ensuite y mettre le feu. Quelque chose d'assez étrange. il demande que Dieu puisse faire descendre le feu, mais il va mettre de l'eau. Ce qui, dans la pensée humaine, paraît stupide. Parce que si on veut allumer un feu, on veut qu'il y ait un bois, le bois soit sec. Mais là, le prophète va verser de l'eau et même l'eau va déborder. Cela défie toute logique humaine. Nous, les hommes, nous sommes trop adultes pour croire que pour allumer un feu, il faut verser de l'eau. Nous devons avoir une foi comme une foi d'un enfant. Notre expérience humaine, nos raisonnements humains sont un frein pour croire en Dieu. Et Dieu est un Dieu de paradoxes. Que va faire Élie? La première chose qu'il va faire, c'est rétablir l'autel qui a été renversé. C'est la première chose. Rétablir l'autel. Regardons dans nos vies, qu'est-ce qui a été renversé? Parce que s'il y a quelque chose qui a été renversé, nous devons d'abord rétablir cette chose-là. S'il n'est pas rétabli, rien ne va se passer. On peut passer des journées à prier, rien ne va se passer. Est-ce la vie de prière qui a été renversée? Est-ce ton temps de méditation? Est-ce un péché que tu chéris tant? Est-ce la dîme, les offrandes, tes sacrifices? Nous savons que l'autel est nécessaire pour le pardon des péchés. C'est ce qu'il faut d'abord restaurer. Donc, Élie va rétablir l'autel. Mais sur l'autel, il y a des choses. Qu'est-ce qu'Élie va mettre sur l'autel? Il va mettre des sacrifices. Et lorsqu'on parle de sacrifices, on voit la mort. Et parler de la mort, on sait qu'on égorgeait les animaux, donc on parle du sang. Reconnaître le sang du sacrifice pour notre purification. Tu n'as plus besoin de verser le sang en te faisant des incisions comme le prophète de Baal, le sang versé de Jésus-Christ est suffisant. Puisqu'il s'est donné en sacrifice, c'est ta vie que Dieu veut sur l'autel. C'est ta vie que Dieu veut sur l'autel. Pourquoi? Parce que Dieu a quelque chose à faire avec toi. Pour le bien des autres. Remarquez, les dons que chacun de nous a, c'est pour les autres. Ce n'est pas pour nous. Quel est votre don? Si vous reconnaissez que vous avez un don, utilisez cela pour les autres. Alors, qu'est-ce qu'Élie va encore faire? Il va rendre un culte agréable à Dieu, c'est-à-dire faire les choses comme Dieu l'a dit, selon son ordre. Et pour cela, remettre la croix au centre de ta vie et de ton culte. Remettre le nom de Jésus-Christ au centre de ta vie et de ton culte. Élie arrangea les bois. Le bois, c'est lié à la croix. Il coupa des taureaux par morceaux, les taureaux par morceaux, et les plaça sur le bois. On voit donc se dessiner ici la croix où le sacrifice est posé pour y être immolé. Ceci est très, très important. Remettre la croix au centre de sa vie. Et c'est pourquoi nous parlons de la croix. Et la croix est un instrument de mort. C'est un instrument d'humiliation. Nous reviendrons là-dessus si Dieu le veut une autre fois. Ensuite, baigner à nouveau dans la parole de Dieu. Faire de la parole ses délices, la méditant jour et nuit. C'est ce que Élie va faire. Il va prendre l'eau, qui est le type de la parole, il va verser cela sur l'autel, et en abondance, au point où l'eau coula, déborda de l'autel, et même les fossés furent remplis d'eau. Sur l'autel et tout autour, il y avait de l'eau. Plongez-vous et baignez dans la parole. C'est le seul secret. Et tout cela est fait au moment de l'offrande du soir, c'est-à-dire au temps convenable, au temps favorable. Le temps du soir a une grande importance. C'est au temps du soir que l'Éternel descendait dans le jardin pour s'entretenir avec Adam et sa femme. C'est au temps du soir que Dieu nous a visités. Donc, c'est un temps favorable aussi pour nous. Donc, au temps du soir, Élie va invoquer Dieu et le feu va descendre consumant tout. L'holocauste, le bois, les pierres et la terre et l'eau qui était dans les fossés. Le feu descendit sur un autel qui était tout trempé d'eau. Comme je le disais, nous voyons tout le temps, si tu suis bien, il y a toujours ces couples, l'eau et le feu. Parce que ce sont des instruments que Dieu utilise pour manifester la vie. On avait vu que le feu était lié à l'énergie, c'est lié à l'Esprit de Dieu. Et l'eau, on avait vu, c'est lié à la parole, type de la parole. Élie n'a pas eu à crier toute la journée comme l'ont fait les prophètes de Baal. Il était certain de son Dieu. Et sa prière était succincte. Et Dieu l'a exaucée. Ça veut dire que ce qui nous permet d'être exaucé, ce n'est pas nécessairement des longues prières. C'est bien, il faut le faire, c'est important. Mais c'est être, faire les choses comme Dieu l'a dit. C'est la seule chose. C'est la seule chose. Bien. Les prophètes de Baal ont crié, ils ont invoqué leur Dieu pendant toute la journée jusqu'au soir, mais rien ne s'est passé. Ils ont même prophétisé. Donc, le fait de prophétiser n'est pas une garantie que Dieu va vous répondre. Non. Dieu veut que vous fassiez les choses comme il le veut. Bien. Vous pouvez prier donc comme vous voulez, vous pouvez chanter comme vous voulez, vous pouvez prêcher comme vous voulez. Si les choses ne sont pas faites comme Dieu le veut, le feu ne descendra pas. Et nous avons besoin de ces baptêmes de feu. Chacun de nous en a grandement besoin. On peut sauter dans tous les sens, rouler par terre pour que Dieu vous entende. Si les choses ne sont pas faites comme elles doivent être faites, rien ne se passera. C'est une lourde responsabilité que chacun de nous a. C'est bien de se rouler par terre, c'est bien de sauter dans tous les sens, c'est bien de prier toute la nuit, mais les problèmes restent. Faire comme Dieu l'a dit. Revenez à la parole, rétablissez l'autel et faites tout ce qu'il vous dira de faire. Alors, demandez et invoquez son nom et certainement, il répondra. Et nous avons besoin de sa grâce pour cela. Nous remarquons, comme je l'ai dit, les trois éléments dont nous avons parlé la dernière fois, l'eau, le feu et le sang. Tout ça, c'est trouvé sur l'autel. L'eau, c'est ce que Élie a demandé qu'on verse sur l'autel. Le sang, c'est le sacrifice qui a été tué. Et la troisième chose, le feu. Ce n'est pas les hommes qui ont allumé le feu. Le feu est venu d'en haut. Et c'est Dieu seul qui peut vous baptiser du Saint-Esprit. Aucun homme ne peut le faire pour vous. Ça vient d'en haut. Israël n'avait plus soif de Dieu car la mondanité était rentrée au milieu d'elle. Israël avait baissé les barrières et ils ont fait ce que l'Éternel avait interdit. Remarquez, le prophète est venu leur rappeler à l'ordre car Dieu voulait leur faire du bien. Et en n'obéissant pas, ce n'est pas Dieu qui était privé de choses, c'est le peuple lui-même qui s'est privé des bénédictions de Dieu. Et ils tombaient alors dans la misère. L'importance d'un prophète. L'importance d'un prophète. Examinons-nous pour voir si nous sommes toujours dans la foi et si nous n'avons pas abandonné Dieu quelque part. Israël est revenu à Dieu. Au temps du soir, Dieu leur a parlé par le prophète Élie. Élie a rétabli l'autel et ils ont fait ce que Élie leur a demandé de faire. Et le feu est descendu. Et comme je disais, nous sommes au temps du soir et Dieu nous a envoyé un prophète, le prophète Branham, pour nous dire ce qu'il convient de faire pour retourner à Dieu. On a tout entre nos mains. L'église ou les églises ont baissé les barrières et ils ont fait entrer les choses qui ne doivent pas se trouver là. Et la frontière entre le monde et les églises est devenue floue. Revenons à l'ancien évangile, revenons à la parole originelle de Dieu. Comme l'apôtre Pierre leur a dit dans Actes 2, 38-42, c'est encore le même message aujourd'hui. Pierre leur dit: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. La repentance est le moyen que Dieu a pourvu pour revenir à lui. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: sauvez-vous de cette génération perverse. Nous en avons parlé, combien le monde est dans un état misérable. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ces jours-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Et il est toujours dit dans Actes là, qu'il se faisait au travers des apôtres des miracles et des prodiges. Et ici, après qu'il se soit repenti, qu'est-ce que nous voyons? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ceci est très, très important. Que Dieu nous aide à revenir à lui. Nous avons à nous examiner, à sonder nos cœurs si nous sommes encore dans la foi. Et si ce n'est pas le cas, c'est de revenir à lui. Le frère Albert, juste avant ce qu'il a connu, il avait commencé à parler du réveil. Et nous en avons besoin. Justement, nous avons beaucoup de cas. Et ces cas-là demandent que nous nous mettons en prière. Mais se mettre en prière pour se mettre en prière ne résoudra rien. On doit s'aligner sur la parole. Chercher la face de Dieu qui nous éclaire là où notre vision est limitée pour que nous sachions exactement ce qu'il convient de faire. Nous avons tellement de cas que nous avons besoin vraiment de chercher la face de Dieu et voir la gloire de Dieu. Parce que c'est une promesse qu'il a faite. Nous avons besoin de voir ces choses que Dieu a dites qu'il accomplirait au milieu de son peuple, que cela s'accomplisse. On ne peut pas juste croiser les bras et dire que c'est bon. Non. Non. Nous avons besoin de sa grâce. Prions. Bien-aimé Père, c'est une situation triste, Père, que de voir ce peuple que tu as conduit, ce peuple que tu as retiré de la servitude, ce peuple qui ont vu des miracles, ce peuple qui a mangé, à qui tu as donné une terre, chassant même les autres nations. Ce peuple t'a abandonné. Ce peuple s'est détourné de toi. Ce peuple, Père éternel, ô Dieu, s'est attaché au Dieu dont tu avais dit qu'il ne devait pas s'attacher à ce Dieu-là. Bien-aimé, nous réalisons aussi, Père, que dans nos vies, combien de fois, Père éternel, tu nous as fait du bien, nous aidant, nous assistant. Et combien de fois, Père éternel, ô Dieu, nous nous sommes détournés de toi. Pardonne-moi, Père, car je suis coupable de cela. Pardonne-moi, Père, parce que je réalise, Père éternel, ô Dieu, combien de fois, Père éternel, ô Dieu, je me suis éloigné de toi. Combien de fois, Père éternel, je me suis égaré. Mais je te dis merci, Père, car ta grâce a toujours été là aussi, Père, pour me montrer les droits chemins. Je reviens à toi, Père éternel, réalisant, Père, ô Dieu, combien nous avons besoin de toi et combien nous avons besoin, ô Dieu, de revenir totalement à toi, car tu es prêt à nous secourir, tu es prêt à nous aider, Père. C'est vrai, lorsqu'on regarde tous les cas que nous avons au milieu de nous, Père, ô Dieu, nous disons, que devons-nous faire, Père éternel, ô Dieu? Et c'est pourquoi nos cœurs se tournent vers toi et demandent grâce, Père éternel, ô Dieu, afin que tu ne nous oublies pas, Père. Tu as fait de grandes choses en cet âge, Père éternel, ô Dieu. Et au travers des âges, nous voyons combien, Père éternel, ô Dieu, tu as fait. Ô Dieu, tu as guéri des hommes, des hommes, Père éternel. Combien tu as, ô Dieu, fait des prodiges. Les morts recouverts, Père, ceux qui sont, ô Dieu, morts sont revenus à la vie par ta grâce, ô Dieu. Ces choses sont vérité. Tu as relevé les paralytiques. Ces choses sont vérité, Père. Tu as ouvert les yeux des aveugles. Ce sont les réalités insondables du Dieu vivant. Et nous avons réellement besoin, Père éternel, ô Dieu, de voir encore ces choses au milieu de nous. Aussi, conduis-nous, Père éternel, ô Dieu. Éclaire-nous, Père éternel. Là où notre vision est limitée ou floue, Seigneur, donne-nous, Père éternel, à voir. Donne-nous la vision correcte des choses, Père éternel, ô Dieu. Car nous voulons, Père éternel, ô Dieu, voir les nôtres complètement guéris, les nôtres complètement restaurés, Père éternel, ô Dieu. Ô bien-aimé, c'est vrai, cette génération-là t'a oublié, Père éternel, parce que quelque part, ô Dieu, il n'y avait plus ces prodiges que tu faisais, Père éternel. Et le peuple s'est détourné de toi, Père éternel, et pourtant tu étais toujours au milieu d'eux. Le fait qu'ils soient dans cette terre était une preuve, Père éternel, que tu es vivant. Mais ils t'ont oublié. Père, fais grâce, Père éternel, ô Dieu. Tu nous as bénis richement, Père éternel, de toutes sortes de bénédictions, Père éternel, ô Dieu. Mais combien de fois, ô Dieu, nous nous sommes détournés de toi, Père éternel, ô Dieu, pour des futilités, Père éternel, ô Dieu. Ainsi, Père, fais grâce, Père éternel, ô Dieu. Nous comptons sur toi, Père éternel, ô Dieu. Ô Seigneur, viens nous en aide, Père éternel, que par l'Esprit, Père éternel, ô Dieu, tu conduises nos vies, Père éternel, tu éclaires nos vies, Père éternel, ô Dieu, et expérimentez, Père éternel, ô Dieu, ces choses, Père éternel, répands des dons au milieu de nous, Père éternel, c'est ta promesse, Père éternel, ô Dieu, et nous avons réellement besoin de ces choses, Père éternel, ô Dieu. Oui, Père éternel, ô Dieu, tu n'es pas un mythe, Père éternel, ô Dieu, tu n'es pas, ô Dieu de miséricorde, une fable, Père, mais tu es, ô Dieu, les dieux véritables, Père éternel. Tu t'es révélé à nous, Père éternel, ô Dieu. Nous ne te connaissions pas, Père éternel, ô Dieu. Et c'est parce que tu nous aimes que tu t'es révélé à nous. Et c'est pourquoi, ô Dieu, viens nous en aide, Père éternel, ô Dieu. Ô bien-aimé, purifie chacun de nous, purifie cette assemblée, Père éternel, ô Dieu. Et permets-nous, Père éternel, de jouir des grâces de notre Seigneur, Père éternel, ô Dieu. Notre attente est grande, Père éternel, ô Dieu, et nous comptons sur toi, Père éternel, ô Dieu. Merci, ô Dieu de grâce, nous a envoyé, ô Dieu, en ces temps-ci, ô Dieu, ton prophète, Père éternel, ô Dieu. Tu as dit, confiez-vous en vos prophètes et vous réussirez, Père. Laisse-nous, Père éternel, ô Dieu, plonger nos regards dans tout ce qu'il a dit et permets-nous, Père éternel, ô Dieu, de nous y conformer, Père éternel, ô Dieu. Ô Dieu de grâce, merci pour tout, Père éternel. Bénis chacun de nous, Père, alors que nous arrivons au terme de cette réunion. Que ta grâce accompagne chacun de nous, Père éternel, ô Dieu. Souviens-toi des bien-aimés qui seront en prière tout à l'heure, Père éternel, ô Dieu. Que tu manifestes, ô Dieu, ton amour et ta bonté, Père éternel, pour exaucer toutes les prières, toutes les demandes qui te seront faites, Père éternel, ô Dieu. Nous nous attendons à toi, Père éternel. Que la grâce et la paix de Dieu accompagnent chacun de nous, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.